18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse d'Itidio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité sont la reprise de l'enrôlement biométrique à Niamey et l'affichage des listes à l'intérieur du pays. En seconde position, nous parlerons de la levée de certaines restrictions dans le cadre de la riposte du Covid-19 au Niger. L'actualité, c'est aussi la fin du franc CFA annoncée par l'État français le 20 mai dernier. Pour analyser ces informations, j'ai le plaisir de recevoir Elhadj Mahamadou Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Elhadj Mahamadou Souleyman, bonsoir.
Bonsoir.
Maimouna Diado de la radio et télévision Tambara. Maimouna Diado, bonsoir.
Bonsoir.
Au téléphone, Ousseyni Sajibo, journaliste freelance. Ousseyni Sajibo, bonsoir.
Bonsoir, comment tu vas?
Au microphone, Mokhtar Hamadou. Suspendu le 30 mars dernier pour cause de pandémie du Covid-19, les opérations d'enrôlement biométrique des citoyens ont démarré le 25 mai dernier dans les communes 4 et 5 de Niamey pour durer jusqu'au 7 juin 2020. Pendant ce temps, les opérations d'affichage des listes électorales biométriques provisoires se poursuivent à l'intérieur du pays. Elhadj Mahamadou Souleyman, que peut-on savoir au sujet de la prise de l'enrôlement biométrique à Niamey et l'affichage des listes électorales biométriques provisoires à l'intérieur du pays?
Comme vous l'avez dit, avec le COVID-19, la CENI avait officiellement annoncé donc la suspension des opérations d'enrôlement. Maintenant que la situation semble se décanter, en tout cas, on a l'impression que au niveau officiel, la vie reprend donc son cours normal. La CENI annonce justement la reprise de ces opérations. Ce n'est que normal parce que on a ces élections générales pour cette année 2020. Je pense que le pari, c'est de vraiment voir disposer de ce fichier biométrique.
D'organiser des
parce
élections.
Parce qu'en réalité, la CENI est condamnée à produire un fichier parce que l'ancien fichier est disqualifié. Nous n'avons plus de fichier classique. Quand je dis, c'est-à-dire qu'après l'audit de ce fichier, la classe politique et les partenaires, tout le monde a constaté que ce fichier, donc on a décidé, on a en tout cas considéré qu'il est disqualifié. Donc, pour éviter donc en tout cas un vide
juridique, sérieux,
parce que je pense que le fichier, c'est l'élément essentiel pour faire les élections. Donc, récemment, on a entendu quelques, en tout cas, interrogations. Il y aura ce fichier, il n'y aura pas. Dans tous les cas, on pense que la CENI s'est fixé un agenda avec maintenant quelques perturbations. Ici, vraiment, il y a une contrainte de temps. Le temps, en tout cas, est compté. Et avec ces imprévus, comme le Covid, il va falloir peut-être à un certain moment la classe politique, même si, en tout cas, le dialogue n'est pas à l'ordre du jour, dans le cadre du processus électoral, en tout cas, il va falloir à un certain moment que les gens se disent que, il faut qu'on se parle là, si effectivement la CENI a fait le point. Nous sommes comme pratiquement à 6 mois des élections. Donc, s'il y a comme un temps pour chaque chose, lorsque on se rend compte à l'évidence qu'on n'a pas suffisamment de temps, Il faut donc s'entendre à voir comment reporter cela.
Ousseini Sajibo, les prochaines consultations électorales sont prévues en fin 2020 et début 2021 au Niger. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, peut-elle rattraper le temps perdu?
Mais Mokhtar, c'est ce qu'on souhaite, que ce temps perdu-là, effectivement, puisse être rattrapé. Mais entre la promesse et la tenue de l'engagement, il y a tout un fossé. On est dans une situation qui est là, une situation quand même imprévisible, comme l'a dit Souleymane. C'est une situation de pandémie, de maladie, d'épidémie chez nous, parce que c'est une pandémie, parce que c'est mondial. Alors, comment ça va se passer quand on parle de la reprise, et comment vais-je dire, de l'enrôlement biométrique au niveau des deux communes qui n'ont pas pu être enrôlées à cause justement de cette pandémie-là? On oublie au moins de signaler qu'il y a des communes à l'intérieur du pays, notamment dans la région de Kawa, mais également dans la région de Kilabéru, où il y a au moins 8 communes qui n'ont pas fait l'objet d'enrôlement. Où la CENI est passée là-bas, je crois. Il n'y a pas eu d'écho par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Ils sont venus, on dit, ça a arrêté à Niamey. Ça a arrêté à Niamey, ça se déroule comment? Je n'ai pas été sur le terrain. Moi, j'ai été enrôlé au niveau de la commune 3. Je suis allé voir comment les choses sont en train de se dérouler. Mais toujours est-il dit qu'il y a des difficultés, parce que le tout n'est pas de faire un fichier. Quand on fait un fichier, généralement, le plus souvent, c'est qu'on le soumet quand même à un contrôle pour voir si, effectivement, tous les électeurs en âge de voter ont pu se faire enrôler. Ça n'a pas été le cas. Et on est à 6 mois des élections. Il faut bien se poser cette question. Comment les choses vont se passer? Est-ce que le temps, parce que tout à l'heure, j'étais entendu dire qu'ils sont en train d'afficher les listes des personnes qui ont été enrôlées. Maintenant, les gens vont aller contrôler sous les fiches. Est-ce que les indications, les données qu'ils ont fournies lors de l'enrôlement, est-ce que ces données ont été prises en compte? Parce qu'il faut faire un retravail, il faut retravailler ce fichier-là pour que ça soit vraiment un fichier crédible. Et ça va encore demander de temps. Est-ce qu'on peut être dans le délai pour pouvoir tenir les élections quand on sait que les élections locales, c'est au plus tard en novembre, je crois, si je me trompe, c'est en novembre que les élections locales ont lieu. Après les élections locales, il y aura les élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives. On ne sait pas si le temps qui reste, est-ce que ce temps va permettre d'avoir un fichier qui peut permettre de faire des élections avec lesquelles tout le monde va être d'accord. C'est ça la grosse interrogation.
Maimouna Diado, ces opérations d'enrôlement biométrique devront permettre à la CENI de disposer d'un fichier électoral biométrique devant servir des prochaines consultations électorales. Elhaj Mahmoud Souleymane l'a rappelé. Comment créer un fort consensus autour de ces élections?
Merci. Donc, parlons donc de ce fichier biométrique dont le Niger devrait être à disposition avant ces élections. Maintenant, le consensus, c'est mieux, parce que je pense que la classe politique, comme l'a dit Souleymane, doit véritablement se réunir, voir comment est-ce qu'il faut faire pour avoir ce fichier crédible. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un fichier, mais il faut que le fichier ne soit pas contesté par les uns et les autres. Si un fichier est contesté par les uns et les autres, donc ça veut dire qu'on va tout droit vers l'échec de ces élections. Et le Niger n'a pas besoin d'échec de ces élections. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés, je parle donc de la classe politique, cette classe politique est obligée de regarder droit devant elle pour pouvoir aller vers vraiment un consensus et ne pas laisser uniquement la CENI dans cette situation. Parce que vous savez, avec cette situation de pandémie Covid-19, la CENI a dû surseoir à beaucoup de choses. Maintenant, entre les élections qui vont se passer en novembre, pour
les
élections locales, est-ce que la CENI aura le temps de revisiter d'abord le fichier qui est actuellement en train d'être affiché provisoire à l'intérieur du pays, parce qu'il y aura des réclamations. Il faut toujours s'attendre à des réclamations. Est-ce que la CENI aura le temps aujourd'hui
d'enrôler,
de prendre en compte ces réclamations et ensuite d'enrôler une partie de Tillabéri, les communes de Tillabéri qui n'ont pas été Etawa, et pour pouvoir encore, parce que c'est des réclamations, il faut toujours s'attendre à des réclamations. Maintenant, les 6 mois restants, est-ce que ces 6 mois, est-ce que la classe politique, honnêtement, pense que la CENI peut faire le travail d'ici les 6 mois? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et comment? Parce que déjà, le code électoral, on s'en souvient, a été contesté par beaucoup, nombre donc de ces politiciens, de la classe politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. On a vu des voix se lever contre donc, le code électoral. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas encore ces mêmes voix qui se lèvent encore pour contester le fichier, moi, tout ce que je préconise, véritablement, c'est de ne pas laisser la CENI dans cette situation. Parce que
vous êtes du même avis, Alhaji Mohamed Souleymane, chercher un fort consensus au sein de la classe politique pour donner le temps à la CENI de faire un travail
remarquable. Un travail remarquable.
Quand vous entendez les hommes politiques de tous bords parler des élections, tout le monde va parler des élections libres et transparentes. Ah, oui. On ne peut pas avoir des élections libres et transparentes sans dialogue, oui. Sans consensus. Maintenant, par exemple, comme on le dit, il y a des inquiétudes. La CENI va informer à un certain moment, va faire l'état du lieu. Par exemple, si objectivement, elle n'est pas en mesure d'organiser les élections locales dans le délai, donc il va falloir que maintenant, les hommes politiques, la classe politique décide comment on va faire. Elle les reporte quand, dans combien de mois? Donc, vous voyez, en réalité, je pense qu'il y a les textes de la République qu'on doit respecter. Mais aussi, il y a les circonstances, les contingences du temps qui font que maintenant, il appartient aux acteurs de s'entendre justement pour qu'il y ait harmonie dans la mise en œuvre de ces textes.
Alhaji Mohamed Souleymane, avant Niamey, la CENI avait déjà annoncé la reprise des opérations dans les communes des départements de Tillabéri et Tawa, où l'enrôlement a été également suspendu quelques semaines en raison du climat d'insécurité qui est prévu. Tout à l'heure, Issaou CENI avait posé la même interrogation. Avez-vous d'autres informations ou d'autres précisions sur le processus d'enrôlement dans ces localités?
Franchement, je ne peux pas le dire de manière affirmative, mais à un moment, j'avais eu comme l'impression qu'il y a un appel de reprise de ce qu'on se rend compte. Effectivement, la question sécuritaire était un peu apaisée, avait un peu d'accord. Mais je ne peux pas vraiment le dire de manière vraiment affirmative. On va vérifier. Mais je pense que cela est absolument nécessaire. Et je pense que la CENI ne peut pas ne pas le faire tant que les conditions de sécurité vont le permettre, parce que c'est des citoyens nigériens qui ont, c'est leur droit aussi,
de voter,
choisir ce qu'ils veulent, en tout cas au niveau de la localité et du pays.
Le gouvernement nigérien a décidé de la lever à compter du 25 mai dernier de l'interdiction de l'organisation des séminaires et ateliers selon le communiqué final du Conseil des ministres du vendredi 22 mai. Aussi, le retour aux horaires habituels de service de 8h à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h à 13h le vendredi, ainsi que la levée de la restriction du nombre des agents de l'État au niveau des services qui était à 25. Cet allègement des mesures est lié à la baisse de la tendance de cas positifs au COVID-19 constaté ces derniers jours au Niger, rapporte toujours le communiqué. Memoune Diallo, comment les Nigériens ont vécu toutes ces restrictions et comment ils ont accueilli la levée de toutes ces mesures de restriction?
Mais les mesures de restriction que les Nigériens ont vécues, parce que moi-même je fais partie, parce qu'en tant que Nigérien aussi, c'était très difficile. C'était très difficile parce qu'on n'a jamais vécu de cette manière. Rester chez soi, certaines. À partir de 19h, rester chez soi, ne pas sortir. Il faut également mettre à l'avantage les gestes barrières. C'est vraiment des choses très difficiles, très compliquées pour le Nigérien quand on connaît le mode de vie des Nigériens, c'était pas facile. Mais Dieu merci, parce qu'on ne peut que remercier le bon Dieu, et avec l'effort également de l'État, du gouvernement, vous avez vu comment est-ce que la population a vraiment, véritablement accueilli cette situation de la levée de certaines mesures, des mesures même, je dirais, mais pas certaines mesures. Quand vous regardez déjà au niveau donc des services, on a levé la restriction de certains agents, où le nombre était à 25. Maintenant, tout le monde peut aller au service, tout le monde peut se retrouver.
Tout en respectant les gestes barrières,
il ne faut pas l'oublier. Et c'est également bien accueilli au niveau des transports, quand vous voyez des transports qui ont fait plus de 2 mois, plus de 3 mois au chômage et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et aujourd'hui, cap, on donne l'avantage donc à ces transporteurs, à ces sociétés, de vaquer librement à leur service, à leur devoir donc civique et autres. Donc je me dis que ça a été très bien accueilli, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est véritablement ne pas oublier les gestes barrières. Parce que jusqu'à présent, Covid-19 n'est pas encore terminé. On est en train d'enregistrer, même si c'est un seul cas, quand même, on peut dire que Covid-19 est là jusqu'à présent. Maintenant, l'État vous a permis de retourner au service. L'État vous a permis de vaquer à vos préoccupations. Maintenant, il faut également montrer à l'État que les gestes barrières dont l'État exige de tout un Nigérien, que ces gestes barrières sont appliqués au niveau des services, au niveau de ces transports et tout.
Issa Ousseini, puisque la maladie du Covid-19 n'a pas été totalement éradiquée, comment amener les Nigériens à mieux vivre avec la maladie du Covid-19 au Niger?
Vivre avec une maladie, c'est toujours difficile. Vivre avec une maladie, c'est par contrainte qu'on vit avec une maladie. Personne ne veut vivre avec une maladie. Maintenant, concernant la gestion de cette pandémie, quand on a vu un peu dès l'apparition du premier cas, on a pris des mesures, notamment la fermeture des écoles, notamment juste par rapport à un cas, pendant qu'on a laissé les marchés fonctionner. On a laissé, il y a un certain nombre d'activités professionnelles, notamment le tourisme et tout, qui a été fermé. Et aujourd'hui, pendant que la situation, parce que bon, Dieu merci, on considère que de plus en plus, il n'y a pas beaucoup de cas à Niamey, notamment qui a constitué ou qui a été perçu comme étant, comme l'épicentre même de la contamination. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais on voit un peu les cas se développer, apparaître dans d'autres régions, notamment Zender, qui fait une année, et qui aussi aujourd'hui qu'on décide de rouvrir les écoles. Les écoles, on sait bien, c'est les enfants, c'est les jeunes, c'est les étudiants qui vont. On se demande bien, est-ce que les mesures qui ont été annoncées, est-ce que ces mesures-là vont suivre? Parce que le coup n'est pas de Dieu, on a pris des dispositions. Vous savez, ce pays-là est vaste. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'école, ce n'est pas seulement à Niamey, ce n'est pas seulement dans les grands centres urbains. L'école, c'est également dans les campagnes. Et les gens viennent d'ailleurs un peu partout. Surtout, c'est la veille de la campagne agricole. Les gens sont en train de rentrer pour pouvoir aller exploiter leur champ. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut que les moyens suivent. Nous sommes d'accord. On ne peut pas se permettre une année blanche, mais... Est-ce que véritablement on a mis en place le mécanisme pour pouvoir permettre aux écoles de fonctionner normalement? Parce que quand on voit même les adultes qui ne respectent pas les mesures, les gestes barrières là, un enfant, quand les enfants, les grandes personnes même ne respectent pas, quand vous allez dans les marchés, faites un tour dans les marchés, vous allez constater, les gens sont sans bavette, les gens lavent de main au savon, ou quand vous portez souvent même la bavette, on vous regarde de manière bizarre, en considérant que voilà quelqu'un qui veut se comporter comme un blanc, alors qu'il s'agit d'une maladie. On n'est pas arrivé à sensibiliser, à discipliner les adultes, les parents des élèves. Mais comment on peut amener les enseignants qui sont dans les classes à pouvoir discipliner ces enfants-là? Le contact d'un maître, en tout cas la distanciation d'un maître, ou le port de la bavette, ou encore le lavage des mains au savon, ou aux jeunes hydroalcooliques, comment on peut arriver à faire ça? Est-ce que l'enseignant doit être derrière tous les enfants pour voir comment ils vont se comporter dans la cour, alors que même quand on a arrêté l'école, les enfants dans les quartiers, ils sont ensemble en train de s'amuser au ballon et autres. Comment on peut prévenir au niveau des écoles où l'enseignant a sa classe, même au niveau du primaire, il a sa classe, il peut gérer les enfants de sa classe, mais ce n'est pas évident, une fois que les enfants sortent, ce n'est pas évident qu'ils parviennent à le faire, il ne faut pas se faire d'illusions. Quand même les parents ne sont pas en mesure de respecter ce qu'on leur dit de faire pour se protéger. Ça, c'est une réalité. Il faut souhaiter simplement à Dieu pour que l'école ne soit pas une source de contamination supplémentaire.
Elhaji Mahamadou Souleymane, les médias nigériens font partie des entreprises qui ont été durement frappées par les conséquences du Covid-19 en raison de l'interdiction de réunions, ateliers et autres séminaires. Comment faire pour que ces médias arrivent à mieux faire face à de telles difficultés?
C'est une réalité. Le secteur des médias a été fortement éprouvé par cette maladie parce que les ressources essentielles des organes de presse, c'est la couverture médiatique, c'est les activités.
Les meetings, absolument. Les réunions, les séminaires, et les ateliers.
Du coup, on a dit que tout est arrêté, il y a plus d'activités. Et vous voyez, effectivement, cela a mis vraiment les patrons de presse dans l'embarras. Parce que là, les ressources qu'ils ont pour pouvoir honorer leur engagement en termes de traitement du personnel, ils sont privés de cela. Donc, par conséquent, même après reprise, on pense que aussi, il faut peut-être chercher à accompagner parce que ce qui est sûr, ils vont accumuler des arriérés
de salaire.
Et aussi, du coup, cela peut impacter le fonctionnement donc, de ces organes de presse. Donc là aussi, je pense...
Mais Alhaji Mahamadou Souleymane, comment est-ce que ces entreprises peuvent s'en passer des couvertures médiatiques, des réunions, des meetings et autres là?
Mais ce que je suis en train de dire, cela a affecté justement sérieusement le fonctionnement. Puisque fondamentalement...
Oui, à l'avenir, est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ces activités-là?
Non, on ne peut pas mentir. L'économie de la presse, elle est composée des éléments bien connus. C'est d'abord la publicité et de notre pays... Les organes privés n'ont pas accès à la publicité comme les organes publics. Et c'est un débat. Aujourd'hui, on est en train de vouloir revendiquer effectivement qu'il y ait un accès équitable à la publicité par tous les organes. La question au niveau du CSC, qui est conditionnée au niveau des patrons de presse aussi, pour qu'il y ait convention collective, et les patrons voudraient aussi qu'ils puissent accéder à la publicité. Donc de ce point de vue-là, c'est un handicap majeur. La publicité devrait être en tout cas l'élément... essentiel pour le financement des organes de presse, on n'a pas ça au niveau de la presse privée. Donc, l'autre élément, c'est maintenant les recettes autres, comme on a eu la conversion médiatique. Donc, qui sont vraiment essentielles, lorsque cela est privé, donc, en réalité, on se retrouve dans une situation où, franchement, on est privé de tout. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir, voir comment accompagner. Je ne parle pas du fonds à la presse. Comment donc on peut accompagner? Parce qu'autrement, il y en a qui risquent de mettre la clé sous le poisson. Faire fonctionner une télévision lorsque il n'y a pas c'est déjà bien avant, en réalité, certains organes, avant même la maladie, il était franchement atteint d'une maladie grave, en réalité. Donc, c'est-à-dire que véritablement, la maladie vient franchement aggraver une situation qui était déjà délétère. Donc, vraiment, on espère que. Les partenaires, je ne parle pas seulement que de l'État, en tout cas, il faut que les bonnes volontés, les gens qui ont de l'argent aussi, parce que nous savons, il y a des ONG qui ont de l'argent. Moi, je connais une ONG américaine dans ce pays qui a de l'argent pour aider la presse, mais ils nous font des micmacs. Ils ont beaucoup d'argent pour la presse, mais ils ne le font pas. Donc, en réalité, il va falloir qu'on se dise la vérité que ceux qui sont censés accompagner les médias, si tant est qu'ils tiennent à la liberté de l'expression, en tout cas, c'est le moment... pour aider vraiment utilement la presse.
Vous avez quelque chose à dire, Mme
Oui,
Degado?
Oui, ce que je voudrais surtout rajouter par rapport à ce que Souleymane a dit, c'est que, en fait, comme vous l'avez demandé, est-ce que ces médias ne peuvent pas faire fi
de ces activités-là.
Moi, je me dis qu'en fait, nous sommes en face de médias qui n'ont pas le sens de la créativité. Et quand vous n'avez pas le sens de la créativité, c'est très difficile pour vous, en tout cas, d'assurer et d'assumer vos engagements vis-à-vis donc, du personnel. Mais il faut juste les appuyer pour que ces organes, ces médias aillent vers la créativité. Avec la TNT, je pense que ça serait possible si chaque média aujourd'hui réfléchisse comment est-ce qu'il faut faire, comment un plan de survie. Un plan de survie, parce que vous avez vu,
c'est parce qu'on
n'avait pas un plan de survie que tout ceci est peut-être arrivé avant COVID-19. Parce que s'il y avait un plan de survie, comme on le dit, peut-être avec même COVID-19, d'autres entreprises allaient surpasser cette situation, ne serait-ce que 2 mois ou 3 mois, pour rentrer dans cette situation. Mais moi, je pense que également, comme il a dit, il faut que l'État arrive quand même à soutenir ces entreprises de presse. Il faut que les ONG et autres organismes internationaux quand même réfléchissent à aider ces hommes de médias. Parce que pour un média qui, par exemple, pour une couverture médiatique, tu n'as que 100 000, 150 000 francs par couverture médiatique, je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, si aujourd'hui, moi, je refuse une couverture médiatique de 150 000, mais il y aura un autre média qui va l'accepter très vite. Donc, ça veut dire qu'ici aussi, il faut qu'il y ait une décision entre ces hommes de médias. Il faut que les promoteurs et les agents qui travaillent dans ce secteur sachent que, en fait, les hommes de médias n'ont pas à vivre du jour au lendemain. Les hommes de médias, aujourd'hui, nous avons dépassé ce cap. On devrait être dans une situation où, même si le salaire ne tombe pas, excusez-moi, à temps, au moins que tu puisses survivre. Mais si le salaire même ne tombe pas à temps, et je suis sûr que tout ce que l'État est en train de donner à ces promoteurs-là, je m'excuse, c'est que ce sont les promoteurs qui bénéficient de cette situation et les hommes de médias qui font le travail n'ont jamais bénéficié de cette situation. Donc, s'il y a à aider, il faut regarder dans les deux sens. Les promoteurs, pour que l'organe marche et puisse en tout cas mettre les agents dans leurs droits, et de l'autre côté, mettre les agents également dans des conditions de travail pour que ces agents puissent travailler, pour que ces médias puissent avoir de quoi survivre aussi.
Ousseyni Sajibo, comment analysez-vous cette situation rapidement?
Pour analyser cette situation, je suis en partie d'accord avec Alhaji Mohamed Souleymane. Je suis en partie en désaccord avec Mimouna. D'abord, un média, que ce soit du public ou du privé, il est là pour un service d'intérêt public. S'il y a eu un soutien, c'est d'abord l'État. C'est d'abord l'État. Et ce que Souleymane a dit, je suis entièrement d'accord. Quand on voit ce qui est en train de se passer, pratiquement toutes les publicités des ministères et autres, ça ne passe qu'à l'un des médias qui sont déjà subventionnés, dont les agents sont payés par l'État. Et que les médias privés, parce que c'est promoteur, je ne suis pas en train de les défendre, hein. Moi j'ai fait la critique avec eux et tout, il y en a qui gèrent mal, qui ne veulent pas développer. Mais je dis par principe, il faut que ces médias aussi soient aidés parce qu'il faut un travail d'intérêt public. À partir du moment où il faut un travail d'intérêt public, on ne peut pas considérer que c'est des ONG internationales ou autres qui vont venir prendre leur argent, ils sont libres de donner à qui ils veulent. Mais l'État est obligé de soutenir en tout cas la productivité, l'initiative locale. L'initiative locale, c'est la création de tous ces emplois-là. Quand les médias n'arrivent pas à payer, parce que tout simplement, il n'y a pas, comment on veut dire, les couvertures médiatiques qui permettent aux promoteurs d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire face à aux fins de mois, pas de salaire, paiement d'eau, paiement d'électricité, entretien du matériel et tout. C'est compliqué. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière d'autres considérations pour considérer que les gens doivent avoir l'initiative, c'est d'abord de créer. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous passe tout le temps à défendre les intérêts, comment dire, d'autres personnes. Vous passez tout votre temps à défendre, à créer politique, la malgouvernance et autres. Quand il y a une malgouvernance jusqu'ici, il n'y a aucune organisation au niveau des médias qui est en train de faire un travail pour amener les médias, les acteurs des médias, je vais parler des journalistes qui sont tout le temps sur le terrain, à prendre conscience que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir défendre ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir défendre, en tout cas, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ça, et de trouver les traits nécessaires pour pouvoir le faire. Il ne faut pas se faire d'illusion. Personne ne viendra le faire. On passe le temps à défendre des acteurs politiques. On passe le temps à défendre des acteurs associatifs. Mais on oublie souvent les conditions dans lesquelles on vit au quotidien. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Je l'ai toujours dit, c'est dommage.
Merci, Ousseyni Sa. On observe une courte pause. Le 20 mai dernier, l'État français a annoncé la fin du franc CFA, monnaie regroupant les pays de l'Union économique monétaire ouest africaine, qui prendra désormais le nom d'ECO. Pour l'économiste Chérif Chako, chez Sanjama, n'aura pas d'impact significatif sur l'économie des pays de l'Union sans un débat de fond popularisé. Écoutons-le, il est au micro de Olivier Asokbavi.
Le changement de nom en tant que tel, ça va pas changer grand-chose, mais c'est le changement de mécanisme qui va avoir d'impact sur les mécanismes de fonctionnement.
Est-ce que cette décision aura un impact sur les transactions financières?
La parité pour l'instant serait gardée. L'obligation de déposer 50% de nos recettes d'exportation, elle sera supprimée. Et aussi, la gestion monétaire sera entièrement ou bien exclusivement par les États de l'UEMOA. Donc tout dépendra des décisions des chefs d'État. Il faudrait qu'il y ait un débat de fond pour que le débat soit popularisé, parce que la monnaie est avant tout un phénomène social avant d'être économique.
Ousseyni Sajibo, la fin du franc CFA dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine, est-ce un mythe ou une réalité?
Non, je suis d'accord avec Dr. Chérif Chako. La fin du franc CFA, qui vous a dit que c'est le nom qui a changé? C'est le nom qui a changé parce que par rapport au mécanisme, c'est une question de parité. Quand la France dit, bon, je vous laisse libre, vous pouvez créer votre propre monnaie, mais je vais garantir la convertibilité de votre monnaie par rapport à l'euro. Ça veut dire quoi? Au niveau de la banque française, on peut prendre nos fonds pour aller loger dans n'importe quelle banque, au Japon, en Chine, dans n'importe quel pays, aux États-Unis. Mais par rapport à cette convertibilité, c'est la France qui nous garantit que voilà la parité fixe avec l'euro. Mais à partir de ce moment, qu'est-ce qui a changé? C'est juste le nom. C'est pas autre chose, c'est le nom qui a changé. Vous voulez ECO? Ok, mettez ECO. On va travailler avec ECO. Mais ce que les gens perdent de vue souvent dans cette analyse-là, c'est que les ressources premières dont ces pays ont besoin, la France et les autres pays, ce n'est pas dans nos pays que ces gens viennent prendre ces ressources-là. Mais quand ils viennent, du point de vue de cette convertibilité entre notre monnaie, parce que lui, il garantit la parité, elle garantit plutôt la parité. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons toujours continuer à être lésés. Il ne faut pas se faire d'illusions, penser que non, l'école, ça sert à quoi? Et d'ailleurs, de la manière dont ça a été court-circuité par le président ivoirien Ouattara. Il a court-circuité le processus en signant en décembre 2019 et machin pour dire qu'il a lancé l'écho, mais voilà comment les conditions dans lesquelles... Aujourd'hui, il y a des pays, les pays anglophones, je vais citer le Nigeria, je vais citer le Ghana, qui sont des pays prospères quand même dans la sous-région au niveau de la CEDEAO. Est-ce que ces pays sont tenus de suivre? Est-ce qu'ils sont tenus? Au Ghana, c'est Fébi, et au Nigeria, c'est le Mera. Mais est-ce que ces pays ne sont pas plus développés que les nôtres? Si on doit rester dans le même carcan pour considérer qu'on peut développer, moi, je ne vois pas. Il faut faire une monnaie qui peut être fluctuante. Quand tu vas avec la monnaie, tu peux monnayer ça contre le yen, quand tu peux le monnayer contre le dollar. Et aujourd'hui, tu sors avec le CFA, tu quittes la sous-région, tu n'as plus aucun pays, même l'Afrique centrale où il y a le CFA, mais comme ce n'est pas le même CFA que le nôtre, en tout cas du point de vue des billets, mais vous avez des difficultés souvent à dépenser le CFA que vous avez parce que les gens ne veulent pas prendre. Voilà ces réalités qui ne sont pas prises en compte dans l'analyse, où les gens sont contents. La France, oui, il a trouvé le mécanisme facile pour pouvoir dire, bon, allez-y, vous êtes devenus grands, allez gérer votre monnaie, et après, vous êtes toujours sous ma coupe, parce que c'est moi qui vais décider, même quand vous allez faire des achats à l'extérieur, vous êtes obligé de passer par l'euro, pour pouvoir, et quand vous passez par l'euro, c'est moi qui suis le garant. Où est le changement? J'étais pas là. Où est le changement? Ça a changé quoi? Dans la donne. C'est juste le nom qui a changé. Il faut changer radicalement, il faut changer le système, le mécanisme. Les mécanismes n'ont pas changé, il a retiré juste les responsables français qui sont au niveau de nos banques centrales là, qui contrôlent un peu comment les choses sont en train de se faire. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose, il y a juste le nom qui a changé. Je suis désolé, Mokhtar.
Elhadj Mahamadou Souleymane, la réforme du franc CFA a été négociée tout au long du second trimestre de 2019 entre la France et les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA. La France a entériné officiellement mercredi 20 mai la fin du franc CFA qui devrait dorénavant s'appeler ECO. Doit-on s'attendre à un grand changement, Elhadj Mahamadou Souleymane?
Le changement essentiel, si vous avez prêté attention à ce qu'a dit l'économiste Chérif Chako, il me semble que c'est l'élément, en tout cas essentiel, qui puisse être une ligne de démarcation. Ça, il dit qu'on a supprimé, on dépose 50% de nos devises au niveau de la Banque centrale française, en tout cas au niveau du Trésor français. Cette disposition coloniale, elle est supprimée. Cela veut dire que l'argent, que cet argent-là, 50%, c'est beaucoup d'argent. Donc cela veut dire que cet argent-là, désormais, et vous voyez, nos pays ont des projets économiques à financer.
Faramineux.
Donc on pense que cet argent-là va servir, en tout cas, véritablement maintenant, à être utilisé pour nos pays, pour vraiment faire réaliser, en tout cas, beaucoup d'actions de développement.
Vous êtes optimiste, hein?
Il a dit que c'est supprimé dans les dispositions, en tout cas, c'est supprimé, cela veut dire qu'on a vraiment évolué de ce point de vue. Maintenant, il faut le déplorer, ce qui s'était passé avant au temps de franc CFA, c'était une aberration où véritablement la France s'était comportée en gendarme vraiment sur le plan économique et fait vraiment ce que bon lui semble de notre situation économique au niveau, par exemple, de la BCAO, donc de la Banque centrale. Les Français sont même représentés qu'il est question de prendre des décisions lorsqu'on n'a pas à s'entendre, à ce moment on va arriver à voter, mais ça veut dire que en fait c'est une question d'ingérence. Ici en réalité c'est tout simplement une attitude paternaliste coloniale, en tout cas, qui fait qu'ils soient là. On a vu en réalité c'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont accepté cela. Ça n'a pas été facile, ils ont résisté. Parce que, quelque part, ils trouvaient leur compte. C'est eux qui tiraient, en tout cas, beaucoup de profits. Mais comme c'est une volonté maintenant des pays, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un problème aussi réel, le fait que les pays comme le Nigeria, le Ghana, effectivement, je pense que... On s'est rendu compte à un certain moment, effectivement, c'est pourquoi Issa l'avait évoqué tout à l'heure, parce qu'on se rend compte que Ouattara, la France comptait sur lui vraiment pour préserver en tout cas ses intérêts. Mm-hmm. Et bon, je pense que les gens ont été vigilants. On s'est rendu compte que le Nigeria, comme c'est une puissance économique dans notre sous-région. Donc, par conséquent, ces pays ont dit non, c'est pas comme la France voudrait le faire. Si on va le faire véritablement, il faut qu'il y ait vraiment des conditions de transparence, en tout cas, que la volonté des États puisse en tout cas prévaloir, pas seulement nous imposer des dictats. Donc, bref, je pense que moi, dans ma compréhension de cette dynamique, l'élément de gagner, c'est vraiment si on arrive effectivement à supprimer ce dépôt de 50% de nos devises, en tout cas au niveau de la Banque centrale française, au niveau du trésor français, je pense qu'on aura en tout cas gagné. Encore faut-il que, justement, au niveau de nos pays, qu'on puisse cet argent-là, en tout cas, l'utiliser.
La bonne gouvernance.
Absolument. Non, il y a cela, effectivement. Mais sur vraiment, pour réaliser des projets vraiment...
structurants.
Voilà, c'est ce que je voudrais dire.
Mamoun Diado, quelle est votre opinion au sujet de cette annonce de la fin du franc CFA par l'État français?
Bon, vous savez, comme ça a suscité également les débats, à mon niveau également, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Ça m'a permis de voir, en fait, que c'est comme si le projet de la monnaie éco, en fait, c'est deux projets. On a comme l'impression qu'il y a la monnaie éco de l'UEMOA et la monnaie éco de la CEDEAO. D'un côté...
Non, selon vous, il faut s'attendre à d'autres réformes après.
Il faut s'attendre à d'autres réformes. Il faut s'attendre à d'autres réformes parce qu'au niveau donc, de la CEDEAO, tous ces présidents ne sont pas unanimes derrière le président ivoirien à soutenir l'écho de la France, parce que c'est l'écho de la France. Parce qu'en mettant le projet, ces chefs d'État africains avaient l'espoir que la France n'allait pas s'y mixer dans le projet. Et aujourd'hui, avec l'écho de l'UMOA, parce que c'est comme ça, moi, je l'appelle, on a comme l'impression que c'est la France, en fait, qui va vouloir prendre certaines mesures qui peuvent...
Donc, notamment les taux de parité.
Oui, les taux de parité. Et ça sera peut-être la France...
Arrimée à l'euro.
Oui, oui, la France qui aura à produire cette fameuse monnaie qui est l'écho. Ça veut dire que, tout simplement, nous, en créant ce projet, les Africains pensaient vraiment avoir une monnaie qui sera égale à l'euro. Et donc, vraiment, ça pourrait bénéficier beaucoup d'Africains. Donc, je me dis qu'il faut, il faut espérer, il faut s'attendre à d'autres bouleversements par rapport à cette monnaie qui est l'écho dans les tout prochains jours.
Alléji Mohamed Souleymane, faut-il s'attendre à d'autres réformes au niveau, cette fois-ci, de la CEDEAO?
Absolument, parce qu'il faut de la vigilance. C'est-à-dire qu'ici, en fait, je pense que c'est... Le processus, en tout cas, vise véritablement à, si j'ose dire, en tout cas, une libération. Et il y a comme une sanction qui était là, en train véritablement de perturber, de tirer profit de, nos, de notre économie. Dans notre contexte, quand on voit, par exemple, le demande, par exemple, de l'énergie.
Rapidement.
Par exemple, l'énergie. Mais véritablement, avec cet argent désormais qui va être géré librement par nos États en principe, mais par exemple, on peut espérer que dans nos pays, qu'on puisse la question de l'énergie, par exemple, la prendre en charge. Ça demande de l'argent. Et s'il y a de l'argent effectivement disponible, on l'utilise pour donc financer des projets comme ça.
Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Elhadji Mohamed Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, Maimouna Diadou de la radio et télévision Tambara, et au téléphone Issa Hussein Jibo, journaliste freelance. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h pour suivre le programme des jeunes avec l'actu des jeunes en 5 langue suivie de tous à la FADA, et à partir de 18h15 samedi, le forum à Hausa sur la scolarisation de la jeune fille à Bouza, et dimanche le forum en Zarma sur le thème comment rendre viable les radios communautaires du Niger. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et côté vidéo Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.